Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Monsieur Page.
Salut Mathieu.
C'est, avec cette voix ténébreuse, oui. Tu nous rappelles... Bon, c'est quasiment peur, hein?
Oui.
Imagine-toi si on avait de l'écho là-dedans, en plus, ce serait quelque chose d'assez hallucinant, mais peut-être...
Nous parlons d'OVNI l'extraterrestre.
1989.
Voilà. En fait, l'événement dont je veux te parler aujourd'hui est un... En fait, c'est le point culminant de cette fameuse vague sur la Belgique qui s'est produite... l'événement lui-même s'est produit en mars 1990, donc il y a 29 ans ce mois-ci. Mais la vague belge, elle, débute quelques mois plus tôt. Elle, on peut vraiment parler d'un événement d'il y a 30 ans.
Oui.
En fait, on est en novembre 1989. Les premières observations vont se produire dans la petite ville de Eupens. Ce sont des gendarmes qui vont observer dans le ciel un objet qui fait quelques dizaines de mètres de diamètre. L'objet leur semble triangulaire. Il a des lumières à chacun de ses angles et une lumière rouge en dessous qui clignote en plein centre de l'objet. Donc, les policiers voient ça. Au même moment, d'autres gens dans Eupens également vont voir ce fameux objet. Les policiers vont le suivre. L'objet, à un moment donné, va faire du surplace au-dessus d'un champ en lançant des rayons lumineux vers le sol. C'est le début de la vague belge. Évidemment, la presse va s'emparer de ça. Et au cours des semaines qui vont suivre, les observations vont se multiplier. Les témoins décrivent généralement un objet de forme triangulaire, comme celui observé par les policiers d'Eupens. Ici, il faut faire attention parce qu'il y a peut-être un effet médiatique, en ce sens que les gens ne voient pas que des triangles volants au-dessus de la Belgique. Mais comme c'est ce qui intéresse les gens, la presse ne focalise que sur ces observations. Donc, des gens qui vont signaler un objet circulaire, un objet en forme de carré, de cube ou peu importe, il est passé dans la moulinette. On n'en tient pas compte. On ne publie que les observations d'objets triangulaires, donnant ainsi une fausse impression que ce qui est observé au-dessus de la Belgique, ce sont ces objets triangulaires. Et là, il se crée une espèce de frénésie à travers le pays. Et curieusement, les ovnis ne visitent que la partie française de la Belgique.
Ben oui.
On le sait, la partie sud, c'est la partie de la Wallonie où on parle le flamand. Mais ce n'est que dans la partie francophone de la Belgique, principalement les observations autour de Bruxelles et de Liège. Ce sont les deux villes où seront concentrer ces observations.
Et sur la frontière de l'Allemagne, est-ce qu'il y en avait eu en Allemagne?
Non, uniquement sur cette partie de la Belgique.
Ça s'est concentré
alors,
quand même.
Les extraterrestres avaient un bon GPS. Et éventuellement, l'affaire prend de telle dimension que les autorités, autant la gendarmerie que les services de l'armée sont interpellés. Et il y a à ce moment-là, en Belgique, une organisation qui s'appelle la SOBEPS, Groupe d'études civiles sur les observations d'OVNI. Et tous ces gens-là vont travailler de concert. Et l'armée belge propose de mettre des chasseurs à la disposition des services publics. En disant, si, mais ces conditions sont claires, l'objet doit être observé à la fois au sol et il doit avoir détection radar. Et si c'est le cas, on va lancer des intercepteurs. Et au mois de mars, il y aura deux lancements d'intercepteurs en décembre, le 5 décembre et le 16 décembre. Mais là, ici, on transgresse un peu les règles. Il n'y avait pas de détection radar au sol, mais l'armée belge ont quand même décidé d'envoyer deux F-16 qui sont revenus bredouilles sans rien. Et puis, arrive le mois de mars 1990, l'événement est à son paroxysme, et dans cette nuit, dans cette soirée du 30 mars, des gens au sol observent dans la région de Bruxelles ces fameux ovnis. Ils sont détectés par deux radars au sol, ceux de Sommerzac, des radars de contrôle aérien, ceux de Sommerzac et de Glons. On donne l'alerte et un peu avant minuit, deux chasseurs F-16 vont se lancer à la poursuite de l'objet. Et dans les minutes qui vont suivre, il y a quelque chose qui va les laisser littéralement ébahis.
Oh.
Parce que, alors que les deux chasseurs volent, on ne sait pas qui est devant nous. Donc, l'un des chasseurs n'utilise pas son radar de bord. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si l'ennemi a des missiles capables de détecter des ondes électromagnétiques. Et comme le radar de bord de l'avion émet des ondes électromagnétiques, on décide qu'un des appareils va voler en aveugle et l'autre aura son radar allumé. Celui dont le radar est allumé va capter à 9 reprises l'OVNI sur son écran radar. À 3 reprises, il va réussir à verrouiller sa cible. Et là, pour les gens qui nous écoutent, verrouiller la cime, ça veut dire que le radar...
s'est fait feu.
C'est ce qu'on appelle en anglais un lock-on. Donc, à ce moment-là, le radar suit la cible, peu importe où elle se déplace, il la suit, il transmet des informations télémétriques par rapport à la cible, quelle distance je me trouve, à quelle vitesse je vais, etc. Et si on appuie sur les missiles, ben, on va directement frapper la cible. Donc, durant ces trois verrouillages sur la cible, le pilote est, je le répète, ébahi. Pour ce quoi? Parce que l'objet passe à un moment donné d'une vitesse zéro, donc il s'arrête et repart, et en une seconde, il atteint la vitesse de 900 km à l'heure. Il passe d'altitude d'à peu près 200 mètres d'altitude à 1500 mètres d'altitude en une seconde seulement. Tout ça pour te résumer, les mouvements atteignent à des moments donnés des accélérations de l'ordre de 30 G.
Donc, c'est humainement impossible à
impossible. Donc, un être humain, même un bon pilote entraîné à 6 ou 7 G perd conscience, à 9, 10 G, c'est la mort. Et dans ces cas-là, à 30, tu comprends, à 30 G, le cerveau te sort par les narines.
Ouais.
Et à, c'est ce qu'on va détecter. C'est ce qu'on détecte sur ces appareils. Le lendemain, évidemment, conférence de presse de l'armée belge. On montre les images de cet éco-radar. Tout le monde est stupéfait par les images en question. Et peu à peu, la vague d'OVNI va se... Et là, il y a toutes sortes d'explications qu'on tente de proposer. Engins extraterrestres. Il y a aussi la possibilité qu'il pourrait s'agir d'avions espions. Les Américains ont développé la technologie des avions furtifs. Oui. Un avion furtif dit avion invisible n'est pas forcément invisible. Il peut être ou invisible ou donner au radar des informations tellement erronées que le radar ne sait plus où se trouve l'appareil. Alors, ça devient un bon candidat, cette idée d'avion espion. Mais les mois vont passer, des communications entre les forces belges et les forces américaines vont bel et bien démontrer qu'il n'y avait pas d'avion espion américain au-dessus du territoire belge. Ça aurait été d'ailleurs assez surprenant, puisque la Belgique, c'est le siège de l'OTAN, c'est un pays ami des Américains. On voit pas pourquoi on procédera à des tests d'avion au-dessus. C'est assez étonnant, parce que j'ai encore entendu récemment un astrophysicien québécois qui se prononçait sur la question des ovnis en disant « Ah, vous savez, cette vague d'ovnis au-dessus de l'Europe au début des années 90, c'est les Américains qui testait des avions secrets. Je pense qu'il devrait se remettre à date, là.
Okay.
Les documents montrent que c'était pas ça.
C'est quoi, finalement?
Pour ce qui est du radar, ça reste mystérieux. Certains ont accusé le radar d'avoir été mal calibré, d'avoir été faussé, de s'être trompé. Il y avait des inversions de température ce soir-là. Quant à la vague belge, crois-le ou non, elle n'aurait jamais existé.
Ben voyons.
Tout ça viendrait d'une série de confusions, la presse, un espèce de phénomène hystérique qui s'est développé au-dessus de la Belgique. Un peu comme les saucisses à graines. Plus t'en parles, plus on en mange, et plus on en mange, plus on en parle. Donc, à partir du moment où on a dit « il y a des ovnis au-dessus de la Belgique », les gens, dès qu'ils levaient la tête, et les gens généralement connaissent mal le ciel, et dès qu'ils voyaient quelque chose, le rapportaient comme étant un ovni.
Là, c'est non classé encore.
Mais ça reste non classé encore. Il y a encore des petits doutes quelque part.
Ah, Christian Page.
Ouais.
Je vais te mettre là-dessus. Enquête-moi là-dessus encore.
Je continue.
Salut bien.
Salut.
Il retourne bon à son bureau d'enquête immédiatement. Christian Page, que l'on retrouvera dimanche prochain. Dans un instant, Mélissa Desormeaux-Poulin sera avec nous et plein d'autres choses également d'ici 11 heures.